Évoquons cette semaine la nature et le rôle de l'Église, il nous faut maintenant aborder ce texte qui me semble primordial pour comprendre justement ce qu'est l'Église, je dirais par rapport à Jésus, ce texte qui est celui de la rencontre de Paul, appelé alors Saul, avec Jésus ressuscité, sur le chemin de Damas. Nous sommes au chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres. Je prends le premier verset car il est très significatif. « Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre, lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. » On voit ici toute la détermination de Saul, et les actes ne sont pas tendres avec le vocabulaire utilisé, animé d'une rage meurtrière. Et il fait toutes les démarches nécessaires pour avoir l'autorité d'arrêter ses disciples du Seigneur. Verset 3. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Nul besoin d'aller plus loin dans ce texte, nous avons déjà ce qui nous suffit amplement. Par deux fois, Jésus s'adresse à Saul. Donc, pour Saul, cela signifie que Jésus est bien ressuscité. Comment pourrait-il lui parler? Et quand Paul veut en avoir le cœur net, qui es-tu? On lui répond, je suis Jésus. Premier point. Deuxième point, et c'est là l'essentiel, Jésus affirme que Saul le persécute. Or, Saul ne persécute pas Jésus. Il ne persécute pas un mythe, une image, une invention, une fable. Il persécute des hommes et des femmes en chair et en os qui se réclament de Jésus. Or, Jésus lui dit « C'est moi que tu persécutes ». Donc, il y a une identification entre Jésus et ses disciples et ceux qui se réclament de lui. Jésus et ses disciples, c'est la même chose, si j'ose dire, de manière très très maladroite. C'est le même être. Si tu persécutes cela, alors c'est moi que tu persécutes. Et ici, nous avons une affirmation qui est centrale pour comprendre la nature de l'Église. Jésus et l'Église, c'est tout un. Donc nous pourrions dire que l'Église, c'est la réalité qui continue l'incarnation de Jésus. Certes, Jésus n'est plus là comme il l'a été au milieu de ses disciples, mais il est là tout de même, présent dans ce groupe qui se réclame de lui. Il est présent à travers et dans l'Église. Voilà qui éclaire d'une manière tout à fait particulière la réalité de l'Église. Soyons bien clairs, quand je parle ici d'Église, je ne parle d'aucune Église particulière. Je ne parle pas de l'Église orthodoxe, je ne parle pas de l'Église catholique romaine, je ne parle pas des Églises de la Réforme, je ne parle pas de l'Église chaldéenne, etc. Je parle de l'Église avec un grand E, l'Église universelle, qui rassemble tous ceux qui ont été baptisés dans le Christ. C'est parce qu'il y a cette identification de Jésus avec l'Église que l'Église trouve sa place dans le credo. Après avoir dit « Je crois en Dieu le Père, je crois en son Fils Jésus, je crois en l'Esprit, arrive cette phrase « Je crois en l'Église ». Et le credo précise « une », donc c'est l'Église unique, une, sainte, catholique. Et ici, attention, dans le credo, catholique ne veut pas dire l'Église latine, l'Église romaine, mais l'Église universelle, c'est le sens fort du mot catholique. Une, sainte, catholique et apostolique, c'est-à-dire née des apôtres, descendante des apôtres, enfantée par les apôtres. Eh bien, cette Église, une sainte, pourquoi sainte ? Mais parce que, justement, elle est la continuation de Jésus. Elle n'est pas sainte parce qu'elle serait parfaite. Elle n'est pas sainte parce qu'elle est impeccable. Elle est sainte parce que c'est Jésus qui l'habite. Et la foi dans le Père, le Fils, Verbe incarné et le Saint-Esprit se poursuit logiquement par la foi en l'Église.
Étienne Dallaire.
Après cette expérience extraordinaire de Saul saisissant l'identification de Jésus avec ceux qui le suivent, avec l'Église, elle ne s'appelle pas encore comme cela, il va développer une image extraordinaire aussi, magnifique, d'une grande richesse, qui nous fait saisir ce lien vital nécessaire de Jésus avec l'Église. Voilà ce qu'il dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Je lis un peu plus loin, verset 14. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant partie du corps. Dans le corps, je vais un peu plus loin, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. En fait, il y a plusieurs membres, mais un seul corps. Et je vais directement vers la fin de ce passage, au verset 27. « Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. » Cette image est géniale parce qu'elle ne fait pas la disjonction entre Jésus d'un côté et l'Église de l'autre. Il y a un seul corps, mais, coup de génie de Paul, la tête du corps, c'est le Christ, et le corps lui-même, c'est l'Église. Donc, les deux sont indissociables. Et l'ensemble, qui forme le corps du Christ, est articulé par des membres très différents les uns des autres, ayant chacun leur rôle, leur fonction, leur importance. Aucun membre n'est inutile dans l'Église. Et j'oserais dire, aucun membre n'est plus important que les autres. Le seul membre qui soit important et à travers qui le corps peut réellement vivre, se développer, se déplacer, être en œuvre, en action, c'est la tête. Et la tête, c'est le Christ. Paul le déclare clairement dans le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens, verset 18, parlant de Jésus-Christ. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. Avant d'achever, je voudrais souligner deux choses. D'abord, celui qui est la tête, c'est celui qui gouverne, c'est celui qui décide, c'est celui qui dirige, c'est le Christ. Et deuxième point, tout baptisé dans le Christ est membre de l'Église. même s'il ne vient jamais à la messe ou au culte ou à la sainte liturgie le dimanche, même s'il ne prie pas, il est membre de l'Église.